Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième séance du cours d'optimisation. Et nous allons reprendre là où nous étions arrêtés la semaine dernière, à savoir au théorème de Cullé-Tucker dans le cas général, c'est-à-dire avec des contraintes d'égalité et des contraintes d'inégalité. Donc je redonne l'énoncé, je vous rappelle qu'on regarde des problèmes d'optimisation de cette forme-là, avec des contraintes d'égalité et d'inégalité. Et ce que dit le théorème de Cullé-Tucker, c'est que si x étoile est un minimum local de la fonction f, donc la fonction objective sur l'ensemble des solutions réalisables, et si les contraintes sont qualifiées en ce point-là, alors il existe des réels lambda et des réels positifs mu, tels qu'on a ceci. Et de plus, et ça c'est spécifique au cas d'inégalité, on a cette relation-là. Pour chaque contrainte d'inégalité J, on a ça. Et la petite spécificité sur laquelle je suis passé rapidement, c'est que lorsqu'on a des contraintes d'inégalité, ces valeurs-là, les mu J, ils sont positifs. Donc vous l'avez déjà vu en TD un peu la semaine dernière. Mais là, je vous redonne l'énoncé et je vais juste essayer de vous expliquer ce que signifie qualifier dans ce cas-là, pourquoi ça permet pourquoi est-ce que Cullé-Tucker est vrai dans ce cas-là et comment est-ce qu'on l'utilise en pratique dans les exercices. Je vais d'abord illustrer rapidement ce théorème en dimension 2, dans le plan. Donc supposons que l'on ait juste trois contraintes d'inégalité données par h1 de x qui doit être plus petit que 0, h2 de x qui doit être plus petit que 0 et h3 de x qui est plus petit que 0. Donc là, j'ai tracé à chaque fois les cas d'égalité, les x qui satisfont les contraintes avec égalité. Et donc l'ensemble des solutions réalisables, c'est cet ensemble grand x à l'intérieur. C'est l'ensemble des petits x qui rendent les hj négatifs. Supposons que x étoile soit une solution optimale. Que nous dit Cullé-Tucker? Donc je vais passer au tableau. Donc, on est dans une situation où x est sur vide en R2, on veut minimiser f de x, et on a trois contraintes d'inégalité. Et ce que nous dit Cullé-Tucker, c'est que le gradient de f de x étoile, plus la somme sur j allant de 1 à 3, mu j, enfin, qu'il existe, il existe mu j, je vais mettre ici, il existe mu 1, mu 2, mu 3, positif, tel que on a, et quelque pour J égale 1, 2, 3. Ça, c'est ce que nous dit Cullé-Tucker. Et sur le dessin, vous pouvez voir que X étoile n'annule pas H3. Comme x étoile n'annule pas h3 et qu'on doit avoir ceci égal à 0, ça implique que mu3 égale à 0. Et donc ça implique, si je reviens ici, ça implique que le gradient de f de x étoile, c'est égal à mu1 moins le gradient de h1 x étoile, plus mu2 moins le gradient de h2 x étoile. Avec mu1 et mu2 positifs. Cela s'interprète sur le dessin de la manière suivante. Le gradient de f de x étoile est une combinaison linéaire du moins l'opposé du gradient de h1 en x étoile et de l'opposé du gradient de h2 en x étoile avec des coefficients positifs. Et c'est un petit exercice de géométrie du plan de vérifier qu'à ce moment-là, ça veut dire que le gradient de f de x étoile est dans le cône dans cet espace-là, engendré par ces deux gradients-là, enfin, par l'opposé de ces deux gradients-là. Donc c'est juste pour vous donner une image. Et à la page 10 du poly, vous avez donc l'argument que je viens d'expliquer là maintenant, enfin l'interprétation de Cullé-Tucker que je viens de donner maintenant. Et en plus, vous avez dans le poly une preuve élémentaire du théorème de Cullé-Tucker dans ce cas-là. Donc il peut vous permettre de comprendre dans un cas concret pourquoi le théorème de Cullé-Tucker est vrai. Dans le cas général, je vais maintenant vous expliquer ce qu'on entend par qualification des contraintes. En tout cas, dans le cas des contraintes d'inégalité, on avait vu le cas d'égalité la semaine dernière. Et pour ça, à nouveau, on a besoin de la notion de direction admissible. Donc la définition d'une direction admissible est la même, hein, toujours la même. Ça ne dépend pas, comme je l'avais expliqué la semaine dernière, ça ne dépend pas de la façon dont vous décrivez l'ensemble des solutions réalisables. C'est une définition très générale. Et je vous rappelle aussi qu'on appelle l'ensemble des directions admissibles le cône tangent. Hein, en un point x étoile, c'est le cône tangent à x étoile. Qu'est-ce que l'on veut avoir? Donc je vais retourner au tableau là, je vais aller à droite. Qu'est-ce que l'on veut dans le cas d'inégalité? Qu'est-ce que l'on veut lorsqu'on suit une direction admissible? Supposons, hein, donc pour expliquer cette notion-là, je me focalise au cas où il n'y a que des contraintes d'inégalité. Et supposons que j'ai une contrainte, j'ai une contrainte comme ça, hj de x. Ça, c'est la courbe hj de x égale à 0. On peut penser qu'on est dans R2. Ici, ça, c'est l'ensemble des points hj de x négatif. Et ici, c'est hj de x positif. Et supposons que je sois à un point x étoile ici. On a donc, je vais changer un peu de couleur, là, le gradient ici. Ça, c'est le gradient de hj de x étoile. Donc, un gradient de hj en x étoile. Qu'est-ce que l'on veut? Supposons que je sois en x étoile. Qu'est-ce que l'on veut si on suit une direction admissible? Donc, je vous rappelle, une direction admissible, ça veut juste dire je veux rester réalisable dans cette direction-là, au moins localement. Eh bien, une direction admissible, donc pour être admissible, il faut que je sois négatif. Donc, une direction admissible, elle part comme ça. Hein, ça, c'est une direction admissible. Eh bien, vous remarquerez que le produit scalaire du gradient de hj de x étoile et de d doit être négatif. Hein, je veux que une direction admissible, je veux qu'elle me maintienne hj de x négatif. Je ne veux pas aller dans ce sens-là, sinon je rendrais ça positif et je ne serais strictement positif et je ne serais plus réalisable. Donc, une direction admissible, elle implique nécessairement que l'on ait ceci. Si je suis direction admissible, le produit scalaire avec les contraintes d'inégalité est négatif. Mais uniquement pour les contraintes d'égalité qui sont dites actives. C'est ce que j'appelle ici j de x étoile. C'est l'ensemble des j pour lequel, en x étoile, je vaux 0. Hein? Donc je reviens sur le tableau. Je suis en train de dire que cet argument, hein, je veux le gradient de hj de x étoile scalaire d, je le veux négatif, mais uniquement si hj de x étoile égale à 0. Si jamais j'avais un x étoile ici à l'intérieur, toutes les directions sont admissibles, je n'ai pas de contrainte particulière. Donc, si on a une direction admissible, on a nécessairement ça, mais uniquement pour les j qui annulent hj, tous les j, uniquement les j pour lesquels hj de x étoile égale à 0. Cet ensemble-là, c'est ce qu'on appelle, hein, je n'ai pas mis sur les slides, c'est ce qu'on appelle le cône linéarisant. Alors, on l'avait vu la semaine dernière pour les contraintes d'égalité. Donc si on est admissible, on a nécessairement ça, et on dira qu'on est qualifié si on a la réciproque. C'est-à-dire qu'être admissible, c'est équivalent à satisfaire ça pour les contraintes actives. En utilisant les termes de cône linéarisant et cône tangent, les contraintes sont qualifiées en x étoile si le cône tangent et le cône linéarisant en x étoile sont égaux. Et maintenant, je vais essayer de vous faire sentir, très brièvement, pourquoi est-ce que Kuhn et Tucker, d'où vient Kuhn et Tucker dans le cas de la qualification des contraintes en x étoile. Donc, ce que l'on veut, déjà, c'est si D est admissible, supposons que X étoile soit un minimum local. Ou une solution optimale. Soit X étoile une solution optimale d'un certain problème de ce problème d'optimisation. Et je prends soit D une direction admissible, je vais écrire ça comme ça. On veut que le gradient de f de x étoile scalaire d soit positif. Pourquoi? Parce que si je bouge dans une direction Si je bouge dans une direction admissible, eh bien je veux que ma fonction objectif augmente. Sinon, je ne serai pas une solution optimale. Elle augmente au premier ordre. Si je suis qualifié, ça, c'est équivalent à dire, que le gradient de f de x étoile scalaire d est positif pour tout d tel que hj de x étoile scalaire d, pardon, le gradient de hj de x étoile scalaire d est plus petit que 0, quel que soit j actif. C'est l'ensemble des contraintes actives. C'est ce que la qualification des contraintes me dit que être une direction admissible, la qualification des contraintes en x étoile, me dit que être une direction admissible, c'est équivalent à satisfaire ça. Donc, si je suis une solution optimale, nécessairement, pour toute D qui satisfait ça, pour toute direction admissible, je veux avoir cette inégalité-là. Et ça, il s'avère que finalement on peut le voir comme des simples relations géométriques entre des vecteurs. Je dis que le gradient de f de x étoile, il doit être tel que pour tout vecteur d qui est comme ça, qui satisfait certaines relations géométriques, et ben ça doit être positif. Et ben il s'avère qu'il y a un lemme de géométrie qui s'appelle le lemme de Farkas, qui automatiquement assure que il est dans le poly, mais c'est un lemme technique, je ne vais pas m'appesantir dessus. Sachez juste qu'une fois qu'on a écrit ça, eh bien, il y a un lemme qu'on peut invoquer qui fait qu'automatiquement, on a... Alors, je vais même écrire ça comme ça, actif, je vais mettre avec la notation de la slide. Automatiquement, ça c'est Farkas, c'est ce qu'on appelle le lemme de Farkas. Il implique que le gradient de f de x étoile peut s'écrire... somme des μj moins les gradients des hj de x étoile pour j appartenant à j de x étoile. Donc là, on a quasiment qu'une étude Kerr. Comment finir pour avoir qu'une étude Kerr ? Pour avoir qu'une étude Kerr, en fait, c'est ce que j'ai mis sur cette slide ici. Je pensais avoir corrigé. Ici, c'est des mu positifs. Je vais avoir les mauvais slides sur ma clé USB. Ici, c'est des mu positifs, bien sûr. Ce que je viens d'écrire, c'est qu'on a donc conclu. Enfin, je peux même mettre le slide complet. Donc, on a le lemme de Farkas. Ne lisez pas les détails. Ce que je viens d'expliquer. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'il existe mu positif tel qu'on est ceci. Et pour avoir Q et Q, il faut avoir ça. Là, ici, j'ai uniquement pour les J de X étoiles, ça. Et il me manque encore cette relation-là et cette relation-là. Mais en fait, c'est très facile. Une fois que j'ai ça, je pose μj égale à 0 pour les j qui ne sont pas dans j de x étoile. Ça me permet d'avoir cette relation-là, puisque j'ai posé μj égale à 0 pour les autres. Et j'ai aussi automatiquement celle-là, parce que pour tous les μj tels que μj fait 0, c'est réglé. Et les autres, c'est des j qui sont dans j de x étoile. Et j de x étoile, c'est précisément ceux pour lesquels hj de x étoile vaut 0. Donc, je redis, je sais que je vais très vite, mais l'idée, c'est juste, une fois qu'on a la qualification des contraintes, de réaliser que être une direction admissible, c'est donc, par la qualification des contraintes, ça veut dire vérifier une série de produits scalaires qui sont négatifs ou nuls. Là, j'écris la matrice M, c'est les gradients de Sj de X. Et une fois que j'ai ça... il y a un lemme de géométrie qui assure que automatiquement, c'est automatique, forcément, ça veut dire que ce gradient de f, il doit être sous cette forme-là. Et ensuite, un petit argument, pour terminer, on complète les μj manquants en les mettant à 0. Donc je saute le lemme de Farkas, sachez juste que c'est un très très beau lemme de géométrie qui permet de conclure. Juste une petite chose, ce lemme de Farkas, c'est lui qui remplace... La semaine dernière, on avait vu un argument d'algèbre linéaire pour conclure l'existence des lambdas. L'argument d'algèbre linéaire, c'était que l'image d'une matrice, c'est toujours l'orthogonale du noyau de la transposée de la matrice. En algèbre linéaire, l'image d'une matrice, c'est toujours l'orthogonale du noyau de la transposée de la matrice. Eh bien, pour le cas inégalité, On a besoin, à la place de ce lemme d'algèbre linéaire, on a besoin de ce lemme de Farkas qui est beaucoup plus riche et d'ailleurs qui contient le lemme d'algèbre linéaire en particulier, comme cas particulier. Bon, ça c'était juste pour vous donner la signification de la qualification, faire le lien avec Cuny et Tucker, et aussi pour prononcer le mot lemme de Farkas. Voilà, sachez qu'il y a derrière ce théorème de Cuny et Tucker un joli résultat de géométrie qui s'appelle le lemme de Farkas. Mais à la fin, on a ça, et vous, dans la pratique, vous n'aurez qu'à appliquer, pour appliquer directement ce théorème sans connaître la preuve. Et pour vérifier la qualification des contraintes, vous n'aurez quasiment jamais à revenir à la définition originelle. Vous pourrez directement utiliser des résultats qui sont démontrés dans le poly, hein, mais qui vous pouvez accepter tels quels. Comme ces deux-là, il y en a d'autres dans le poly. Il y a au moins quatre résultats qui assurent automatiquement la qualification des contraintes en un point. Le premier théorème le plus utile, c'est quand les contraintes sont affines. Alors là, c'est facile, c'est toujours qualifié, que les contraintes soient d'égalité ou d'inégalité. Et dans le cas, sinon il y a cette autre condition-là, les contraintes sont qualifiées en un point X si les gradients des GI et les gradients des HJ forment un système libre. On l'avait déjà vu la semaine dernière pour le cas d'égalité, il se généralise directement au cas d'inégalité, le cas général, à ceci près que les gradients des HJ, c'est uniquement ceux qui sont actifs. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de regarder les indices des contraintes pour lesquelles vous n'avez pas HJ de X égale à 0. En X. Voilà, donc ça vous le pratiquerez en TD. Et donc ça vous donne, là vous avez donc maintenant le théorème de Cuny et Tucker en toute généralité avec une brève justification. Là j'ai remis le slide que j'avais déjà dit la semaine dernière, à savoir que ce qu'on a vu dans le cours, souvent dans l'amphi, souvent on se limite au cas où les fonctions prennent des valeurs finies. Et en fait, il y a plein de résultats qui restent vrais lorsque les fonctions prennent des valeurs plus l'infini. Donc n'hésitez pas à regarder bien les énoncés dans le poly. Normalement, j'ai fait ça soigneusement. Tous les énoncés qui restent vrais lorsque les fonctions prennent des valeurs plus l'infini sont énoncés, sont écrits tels quels. Et la preuve couvre également ce cas-là. Voilà, donc j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Et avec ça, j'ai donc terminé la partie sur Cuny et Tucker. Nous reviendrons bientôt sur Cuny et Tucker, peut-être même aujourd'hui, dans un cas plus spécifique, qui est le cas de l'optimisation convexe. Mais maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Toujours d'optimisation, mais de quelque chose qui est une notion très profonde en optimisation, qui s'appelle la dualité. On ne fera que la survoler dans ce cours, mais je pense qu'il est déjà intéressant pour vous d'en découvrir certains aspects. Parce que c'est des choses qui sont assez profondes et c'est bien de commencer assez tôt. Ce qu'on va faire, c'est des choses relativement simples, mais on aura déjà dans le cours quelques conséquences de la dualité qui seront assez, j'espère, surprenantes, en tout cas assez élégantes. Et donc, de quoi s'agit-il ? Bon, toujours, vous voyez, je vis toujours avec ce problème d'optimisation-là. On commence à bien le connaître. Eh bien, pour introduire la notion de dual d'un problème d'optimisation, il faut d'abord introduire la notion de lagrangien d'un problème. À tout problème d'optimisation comme ça, je peux associer un lagrangien qui est cette fonction-là. Donc le lagrangien, il part l'ensemble des x, qui sont les variables du problème d'optimisation, mais il part aussi de lambda, un peu c'est ce qu'on appelle les multiplications de Lagrange pour Cuny et Tucker, et des mu, lambda qui sont associés aux contraintes d'égalité, les mu qui sont associés aux contraintes d'inégalité, et vous voyez ces contraintes de signes. Le lagrangien donc prend ce triplet-là et renvoie cette quantité-là. Donc quand je mets G en gras comme ça, c'est simplement que je vois G de X comme un vecteur de composantes G1, G2, G3, etc. Donc ça, c'est la somme des lambda I, GI. Ça, c'est la somme des mu J, HJ de X. Donc le lagrangien, cette expression-là. Il s'avère que la valeur optimale du problème là-haut est égale à ceci. Et je vais vous le démontrer immédiatement. Ce n'est pas difficile à démontrer. Et autant la preuve de Cuny et Tucker, je ne vous demande pas de la maîtriser, ni même de la comprendre dans tous les détails, autant ce que je vais faire là maintenant, c'est très important que vous sachiez le faire, parce que lorsque vous aurez à dualiser les problèmes, c'est précisément l'exercice qu'on vous demandera. Donc j'affirme que la valeur optimale du problème, c'est l'inf du sup du Lagrangien. Alors ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais écrire le sup sur lambda donc appartenant à Rp, mu appartenant à Rq+, du Lagrangien x lambda mu. Ce stylo n'est pas terrible. Donc ça, c'est égal au sup de... donc, je vais le faire juste dans le cas, je vais le faire, pour simplifier, je vais le faire juste dans le cas d'inégalité. Je crois que je vais passer au stylo noir. Je vais le faire juste dans le cas d'inégalité. Ça simplifiera les calculs, mais ça ne change rien, quasiment rien. Donc, le sup sur mu appartenant à RQ+, c'est égal donc au sup de f de x plus somme de mu j hj de x, pour j égale 1 à q, sup sur mu appartenant à RQ+. Que vaut cette quantité-là? Eh bien, dès que l'un des hj de x est strictement positif, il est évident que ceci va tendre vers plus, va valoir plus l'infini. Dès que il suffit qu'un seul des hj de x soit strictement positif pour que ceci vaille plus l'infini. Ça, c'est donc égal à plus l'infini si il existe j tel que hj de x strictement positif. Et sinon, s'ils sont tous négatifs ou nuls, ben le mieux que vous puissiez faire, c'est 0. Sinon, avec mu contraint à être positif, vous ne pouvez pas rendre ceci strictement positif. Donc, ici, on a f de x, sinon. Et bien maintenant, notez que, j'espère que ce rouge écrit, que ça, c'est équivalent à dire que si j'ai un truc comme ça, ça veut dire que x n'appartient pas à l'ensemble des solutions réalisables. Je vous rappelle qu'on veut rendre tous les hj négatifs. Et le sinon ici, c'est précisément si x appartient à grand x. Par conséquent, donc le sup de ceci, c'est égal à ça. Le sup de ceci, c'est f de x si x est réalisable et plus infini sinon. Et donc l'inf sur x de Rn, du sup sur mu appartenant à Rq plus du Lagrangien, eh bien ça c'est égal, le mieux que je peux faire, c'est l'inf sur x appartenant à grand x, f de x. La valeur minimale que je peux donner à ça lorsque x vit dans Rn, c'est d'abord de le ramener dans grand X, parce que sinon j'ai plus l'infini, et ensuite de prendre celui qui me rend f de x le plus petit possible. Et là, vous reconnaissez la valeur optimale du problème. Donc ces calculs-là sont faits dans le poly. Je vous invite à les comprendre, à les refaire, à les maîtriser. Et vous allez me dire, bon, c'est bien joli tout ça, on a écrit la valeur optimale comme un inf de sup. Mais une fois qu'on a un inf de sup, on a bien envie de faire quelque chose, on peut être tenté en tout cas de faire quelque chose qui semble naturel, et bien c'est d'inverser le sup et l'inf. Et il s'avère que on a toujours cette relation-là. L'inf de sup est toujours plus grand que le sup de l'inf, quelle que soit l'expression qui est ici. Je vais vous le démontrer maintenant. Mais avant de vous le démontrer, je vais juste commenter ça. Supposons que j'ai démontré ça, cette relation-là. On vient d'expliquer que l'inf de sup, c'est la valeur optimale du problème qu'on vient de regarder. C'est ce que j'ai écrit. Là, j'ai remplacé le mot problème par primal. Donc, l'inf de sup est plus grand que quelque chose. La valeur optimale du problème qui m'intéresse est plus grand que quelque chose. Mais si j'écris inf de sup, ça, je l'ai construit à partir d'un problème d'optimisation. Là, je peux faire le même raisonnement inverse à partir d'un sup de l'inf. Je peux construire un problème d'optimisation que j'appelais problème dual, dont la valeur optimale coïncidera avec ça. En fait, le problème primal, Hein, je vous ai justifié que le sup de ça, c'était f de x, quand x était réalisable. Donc le problème primal, finalement, c'est ça. Le problème de départ qui m'intéresse, c'est celui-là. C'est juste une réécriture. Sa valeur optimale, c'est ça. Eh bien, en inversant le sup et l'inf, je construis un problème dual, un autre problème d'optimisation, dont la valeur optimale est toujours inférieure à la valeur optimale du problème de départ. On appelle ce problème le problème dual, et sa valeur optimale, c'est la valeur optimale du dual. On a donc cette phrase en optimisation qui est toujours vraie. La valeur optimale du primal est toujours plus grande que la valeur optimale du dual. Donc maintenant, je vais vous démontrer cette relation-là. Et je le fais sur ce tableau ici. À nouveau, là, l'exercice que je vais faire, ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez refaire. C'est pas difficile. D'abord, ce que j'écris, c'est que, je vais écrire ça, je vais le faire juste dans le cas d'inégalité à nouveau. On a toujours, je prends un x' et un mu', quelconque. Vous serez d'accord avec moi qu'on a toujours ça, qui est plus grand que, je vais mettre comme ça, que l'inf sur x, je ne vais pas les ensemble, hein, de l, de x et de mu'. On a toujours ça. Je fixe x', je fixe mu', et maintenant je prends l'infimum de ça sur la première composante. Forcément, je ne peux que diminuer. De même, j'ai ça. Là, je cherche à rendre ça le plus grand possible. Pour x' et mu' fixés, ben, j'ai forcément ces inégalités-là. Ben, maintenant, je peux réécrire ça ici. Hein, on a donc sup, ce que l'on a, on a ça. Hein, je ne fais que, j'ai fait que effacer ce qu'il y avait au milieu. On a donc ça. Je fixe x', je fixe mu', j'ai ça. Bon, bah maintenant, ça, je fixe x', j'ai ça. Et je vais essayer de rendre ça, ça c'est vrai, quel que soit mu'. C'est quel que soit x', mu'. Si ça c'est vrai, quel que soit mu', en particulier, eh ben, c'est vrai pour le sup. Et j'ai donc, quel que soit x', j'ai ceci qui est plus grand que ça. Donc en particulier, l'infimum. C'est encore vrai pour l'infimum. Et après, je peux enlever, une fois que j'ai mis les inf et les sup, je peux enlever les primes. Et donc, j'ai cette relation-là. Donc, ça fait presque magique. Hein. Je vous promets que j'ai fait toutes les étapes de raisonnement. N'hésitez pas à le refaire. Hein. Donc, c'est dans le poly, page 14. Ce n'est pas difficile. Et c'est, malgré tout, assez profond. Donc, comme je vous l'ai dit, si je peux voir cette valeur-là comme la valeur optimale d'un problème d'optimisation, simplement, celui qui est défini comme ça. Vous verrez en TD qu'on peut souvent préciser l'expression de ce problème-là. C'est-à-dire que dans les cas concrets, on arrive à un très joli problème d'optimisation en faisant disparaître le inf ici. Tout comme ici, j'ai construit ça, au début, je n'avais pas de sup ici. Hein. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça peut servir? Bon, on verra, vous verrez dans les prochaines séances, dans les exercices des applications. Je vais juste signaler déjà quelques applications, même si ça va rester assez général et assez vague. Notez que, lorsqu'on résout un problème d'optimisation, comme ça, hein, lorsque je résous son problème d'optimisation, c'est facile d'avoir une bande supérieure sur la valeur optimale. Pourquoi? Enfin, c'est assez facile si je connais une solution réalisable. Si j'ai une solution réalisable, la solution réalisable me donne une borne supérieure sur la valeur optimale du problème. Parce que la valeur optimale du problème, c'est je veux la rendre la plus petite possible. Donc, j'ai une borne supérieure. Ce qui peut être intéressant d'avoir, pardon, je reviens ici, c'est une borne inférieure, c'est-à-dire quelque chose qui, a priori, vous dit jusqu'où vous pouvez aller. Et bien ça, ça vous donne une borne inférieure. Vous voyez, la valeur optimale du primal, elle est bornée par la valeur optimale du dual, qui elle-même est plus grande que toute valeur d'une solution réalisable ici. Donc le problème dual, dès que vous avez des solutions réalisables, il vous donne une borne inférieure sur la valeur optimale. Et ça, c'est quelque chose de très profond et de très utile en optimisation, qu'on ne verra quasiment pas dans ce cours, mais que vous verrez plus tard si vous continuez dans le domaine. C'est qu'on peut encadrer a priori ou a posteriori la valeur optimale d'un problème de minimisation en ayant d'une part une solution réalisable qui vous donne une borne supérieure sur la valeur optimale du problème et une solution réalisable du problème dual qui vous donne une borne inférieure sur la valeur optimale du problème. Voilà, donc c'est juste, même si vous n'avez pas tout compris, dites-vous que c'est un moyen de certifier la qualité des solutions de manière un peu automatique. Vous n'avez même pas besoin de vous poser des questions, vous avez vu, j'ai construit ce problème-là de manière mécanique. Oui, j'ai utilisé le mot dualité faible ici. C'est ce qu'on appelle l'inégalité de dualité faible. Il s'avère qu'il y a des cas assez miraculeux où on a égalité ici. C'est-à-dire que le problème dual a la même valeur optimale, pas du tout les mêmes solutions, hein. Les solutions sont complètement différentes puisqu'ils vivent dans des autres espaces, mais a la même valeur optimale que le primal. C'est ce qu'on appelle la dualité forte. Puis on a une autre propriété sur laquelle je ne vais pas m'apesantir, qui est en fait, si on regarde les choses du point de vue lagrangien, la solution optimale du primal et la solution optimale du dual forment ce qu'on appelle un point sel du lagrangien. Bon, ce n'est pas très important, on ne s'en servira pas. Et l'autre point que je voulais faire remarquer, c'est que point sel, si on a dualité forte. Ceux que ça intéresse, hein, le calcul n'est pas difficile et est fait dans le poly. Et tout ce que je viens de dire, est vrai en toute généralité. Là, pour le coup, on n'a même pas besoin de la différentiabilité, ni même la continuité. Tous les raisonnements que je viens de faire, dualité faible, construction du problème dual, expression de la fonction objective en voyant ça comme un suprémum de Lagrangien, je les fais sans supposition sur les fonctions. Même pas sur les espaces, même pas sur les domaines ou sur les valeurs prises par les fonctions. C'est très, très général. C'est un phénomène très, très général en optimisation. Voilà, vous verrez quelques exercices sur la dualité pour vous permettre de commencer à vous familiariser avec cette notion. Voilà, donc maintenant, je vais passer à encore un autre sujet. Donc aujourd'hui, on a vu Kulé-Tucker dans le cas inégalité. On a vu une petite introduction à la dualité, avec quelques calculs assez élémentaires que je vous demande de connaître, qui sont détaillés dans le poly. Et maintenant, nous allons commencer à parler de convexité. Donc, oublions quelques instants les questions d'optimisation. Et j'y reviendrai, hein, vous voyez même que le mot Kulé-Tucker va réapparaître. Qu'on parle d'optimisation convexe, mais avant ça, donc oublions un peu la notion d'optimisation et regardons juste ce qu'on entend par convexité. Vous avez dû voir ça soit en prépa, soit au moins dans les rappels de début d'année, de mathématiques de début d'année, mais je vais faire quand même quelques rappels très brefs. Qu'est-ce qu'on entend par convexité? En fait, il y a deux notions de convexité, mais souvent elles sont de façon très très proches. Il y a les convexités des ensembles et la convexité des fonctions. Qu'est-ce qu'on entend par convexité d'un ensemble? Donc, vous voyez, donc là, vous pouvez à nouveau tout oublier, même si vous n'avez rien compris à la dualité ou à Kulé-Tucker, vous pouvez à nouveau vous replonger dans le cours. On vous définit le mot convexe. Qu'est-ce que c'est qu'un convexe de Rn? Un convexe de Rn, eh bien, c'est ça. Ça, c'est convexe, ça, c'est pas convexe. C'est quoi la notion mathématique qui va derrière? C'est qu'on dit qu'un ensemble est convexe si, dès que je prends deux points de cet ensemble-là, c'est convexe, si lorsque je prends deux points, le segment d'extrémité, ces deux points, hein, qui s'écrit comme ça, t est un réel compris entre 0 et 1, ben le segment entier est compris dedans. Donc ça, c'est convexe, parce que dès que vous prenez deux points, ben le segment sera toujours dedans. Ici, vous voyez bien que si je trace un segment ici, eh bien, je suis dehors. Ça, ce n'est pas convexe. Il y a plein d'ensembles convexes naturels. Rn est convexe, toute intersection de convexe est convexe, un cube est convexe, une boule est convexe. Il y a plein de situations où les ensembles sont naturellement convexes. Donc ça, c'est la définition d'ensemble convexe. On a aussi la définition, la notion de fonction convexe. Donc là, je l'illustre dans le cas... la dessin, c'est sur le cas d'une fonction d'une variable réelle, mais la définition... Alors, commençons par, cette définition-là. Une fonction est convexe si toute corde de la courbe se situe au-dessus de la courbe. Donc ça, ce n'est pas convexe. Mais vous voyez, ici, si je prends une corde, elle sera toujours au-dessus de la courbe. Ici, ça n'est pas. Cette fonction-là n'est pas convexe. La définition, c'est ce que j'ai dit. En fait, c'est une fonction de Rn dans R est convexe. Si dès que je prends deux points de Rn, et je regarde le segment de Rn qui relie ces deux points-là, eh ben, la fonction sur ce segment, voyez, est toujours inférieure ou égale en dessous de la corde qui relie les valeurs prises par la fonction, enfin qui relie les images de la fonction sur prise aux extrémités du segment. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est cette image-là. Ici, ce n'est pas convexe, ça c'est convexe, parce que dès que je prends une corde, vous voyez bien, la courbe est inférieure ou égale au segment qui relie les extrémités. Les exemples de fonctions convexes, toutes les fonctions linéaires et affines sont convexes, bien sûr. X carré est convexe, moins log de x est convexe, moins la racine carrée de x est convexe, 1 sur x est convexe, il y a plein de fonctions naturelles qui sont convexes. Alors, j'ai parlé de cordes. On a, lorsque la fonction est différenciable, on peut avoir une définition qui est peut-être plus, plus simple, je ne sais pas. En tout cas, elle est locale. On dira qu'une fonction, on a qu'une fonction différenciable est convexe, si et seulement si la courbe est au-dessus de toute tangente. Hein, donc, à nouveau, je l'illustre sur le cas d'une fonction d'une variable réelle. La fonction f est convexe parce que, c'est une condition nécessaire et suffisante, parce que dès que je prends un point y, je prends la tangente à la courbe, et bien la courbe est au-dessus. Hein, c'est ce que s'exprime comme ça dans le cas général. Le f de x est toujours plus grand que tout point pris f de x ici. Il est plus grand que ce... c'est ce point-là ici. Donc ça, c'est dans le cas où la fonction est différenciable, ça peut être utilisé comme définition alternative à la convexité. Donc ça, c'est un critère qui peut être des fois utile. Hein. Vous ne savez pas comment vérifier qu'une fonction est convexe. Vous dérivez, puis peut-être que vous verrez que facilement, vous pouvez montrer ceci. Il y a des méthodes encore plus efficaces. Malheureusement, il faut que la fonction soit deux fois différenciable. Et ça, c'est en général la notion que les élèves retiennent le mieux. Donc, pour les fonctions de variables réelles, c'est de dire que la dérivée seconde est positive. Donc on dit qu'une fonction est deux fois différenciable et convexe, et si et seulement si la Sn est semi-définie positive, en tout point. Donc la Sn d'une fonction, vous l'avez dû la voir, vous devez le savoir, mais c'est simplement la matrice des dérivées secondes. Donc lorsque la fonction est deux fois différenciable, c'est une matrice qui est symétrique. Et semi-définie positive, des fois j'ai des doutes sur la terminologie que vous employez, donc j'ai remis la définition, c'est juste de dire que ceci est positif pour tout x. Donc si vous avez une fonction f, vous calculez sa Sn, vous vérifiez que vous avez ceci pour tout x et en tout point du domaine de la fonction, et bien alors votre fonction est convexe. Et c'est une condition nécessaire et suffisante. Hein, donc je vous dis, c'est la généralisation à dimension n du critère que vous connaissez probablement, à savoir qu'une fonction deux fois dérivable est convexe si et seulement si sa dérivée seconde est positive en tout point. Je signale aussi une relation qui est très utile, qui est facile à démontrer par récurrence. Faites-le en exercice si vous ne l'avez jamais fait. C'est immédiat à partir de la définition, je reviens ici, à partir de cette définition-là, donc la définition première hein, de la convexité, par récurrence, on peut facilement démontrer ceci. C'est que donc le cas k égale 2, c'est la définition. Le cas k égale 2, il vous dit que la fonction évaluée en un point du segment est inférieure ou égale à la valeur, à la, au, au point, enfin, en dessous du point sur le segment qui relie les images des extrémités du segment. Donc le kk égale 2, c'est la définition. Et plus généralement, hein, si vous avez des lambda i qui somment à 1, qui sont positifs, vous avez que f de la somme des lambda xi est plus petit que la somme des lambda i f de xi. Et au lieu de parler de segments, on pourrait parler de triangle, par exemple, pour k égale 3. Lorsque vous avez la fonction évaluée dans un triangle, vous êtes toujours en dessous du triangle qui relie les valeurs prises aux extrémités. Et ça, c'est utile pour certains résultats, pour démontrer certains résultats. Cette relation qu'on appelle aussi l'unité de Jensen peut être très utile. Donc je la signale, et de toute façon, elle est donnée dans le poly page 16. Je crois sans démonstration, je ne sais plus. Faites-le, démontrez-le comme exercice, c'est pas difficile et c'est très bien. Ça peut être très utile, en tout cas, pour pratiquer la notion de convexité. Je vois que j'ai même le temps d'arriver jusqu'à Kuhn et Tucker dans le cas convexe. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Donc on a vu, je vous ai donné quelques rappels de notions de convexité. Donc, on a vu ensemble convexe, on a vu fonction convexe, on a vu qu'on avait quelques critères qui permettaient de s'assurer qu'une fonction est convexe. Ces critères sont dans le poly, vous le pratiquerez en TD. Et à quoi ça sert toutes ces choses, ces critères de convexité, c'est de vérifier qu'éventuellement, on se situe dans le cadre de l'optimisation convexe. L'optimisation convexe, c'est le cas particulier de l'optimisation où la fonction objectif est convexe et l'ensemble, que j'appelle toujours grand X dans ce cours, l'ensemble des solutions réalisables, est convexe aussi. Il s'avère que lorsqu'on est dans ce cas-là, on a des théorèmes et des algorithmes que l'on n'a pas dans le cas général. C'est ce que je mets là, on a des propriétés plus fortes que dans le cas général, et on a des algorithmes efficaces. Et même si vous voulez même simplifier un peu le message général, c'est-à-dire qu'on a de l'efficacité algorithmique, on sait résoudre de manière efficace des problèmes d'optimisation, uniquement dans le cas convexe. Bon, je mens un peu, mais en gros c'est ça, c'est que l'optimisation convexe c'est le domaine où on sait bien faire. Donc ça veut dire que si vous repérez qu'un problème d'optimisation est un problème d'optimisation convexe, déjà vous avez de bonnes chances de savoir le résoudre, d'avoir des techniques en tout cas pour le résoudre. Et d'autre part, si vous n'y êtes pas, vous pouvez vous demander aussi si par hasard, là je parle pour votre vie future d'ingénieur si jamais vous faites de l'optimisation, vous pouvez vous demander si par hasard vous ne pouvez pas approcher votre problème de départ par un problème d'optimisation convexe. Donc là j'ai dit l'ensemble grand X c'est un ensemble convexe. Comment traduire ça lorsqu'on revient sous la forme habituelle de notre problème d'optimisation avec des contraintes d'égalité et des contraintes d'inégalité? Eh bien, ça veut dire pour que l'ensemble grand X soit convexe, il faut que les fonctions HJ soient convexes. Je dis il faut, ce n'est pas complètement nécessaire. Mais disons, si en tout cas les HJ sont convexes, et si les GI sont affines, alors... Le problème d'optimisation devient un problème d'optimisation convexe parce que l'ensemble des solutions réalisables est un problème d'optimisation convexe. Vous serez peut-être surpris de voir qu'on demande que les contraintes d'égalité soient des contraintes affines et non pas convexes. Donc c'est plus fort que convexe. Pourquoi ? C'est vrai que je n'ai pas mis dans le poly, mais je peux vous donner un petit exemple. Pourquoi est-ce que... Déjà, si on veut le démontrer, vous allez bien voir. Si vous voulez démontrer que le fait d'avoir GI affine et HJ convexe implique que l'ensemble des solutions réalisables est convexe, vous allez bien voir que vous avez besoin d'utiliser le fait que GI est affine. Et c'est expliqué dans le poly. Mais notez juste, par exemple, si j'avais GI de X, juste un truc tout bête, si j'avais par exemple GI de X est égal à X carré moins 1, je suis dans variable réelle. Et bien, vous voyez bien que, donc ça c'est convexe, mais x carré moins 1 égale à 0, l'ensemble c'est x égale plus ou moins 1. Et vous voyez bien que cet ensemble-là, on a grand x. Si j'ai une seule contrainte, si j'ai une seule contrainte d'égalité, vous y auriez grand x égale plus ou moins 1. Et ça c'est un ensemble qui n'est pas convexe. Non seulement il n'est pas convexe, mais il n'est même pas connexe. Donc, si on veut avoir un ensemble de solution grand X, un ensemble convexe, il vaut mieux avoir les GI qui sont affines. Et il s'avère que dans le cas convexe, on a toujours Q netuker. Ce n'est pas une surprise, puisque Q netuker est vrai en général. Donc vous allez dire, bah, qu'est-ce que il n'y a rien de nouveau là, rien de nouveau sous le soleil, mais donc c'est toujours le même problème d'optimisation. Là, j'ai mis convexe pour les HJ et affine pour les GI en plus. Et là, vous reconnaissez le théorème de Cunet-Tucker. Tout pareil. La différence, ce qu'il y a en plus, c'est la réciproque. C'est que si vous avez ça, si vous avez la conclusion habituelle de Cunet-Tucker, donc si vous avez l'existence de lambda et de mu telle que ceci, alors x étoile est une solution optimale du problème. Ce que je vous dis simplement, c'est que dans le cas convexe, le théorème de Cunet-Tucker est une condition nécessaire et suffisante. Vous n'avez pas besoin d'arguments supplémentaires pour justifier que votre solution est une solution optimale. Vous trouvez des lambda et des mu qui satisfont ça, c'est gagné. Ce n'est pas marqué sur les slides, c'est marqué dans le poly. Pour la réciproque, vous n'avez même pas besoin de vérifier que x étoile, que les contraintes sont qualifiées en x étoile. Voilà, donc la semaine prochaine, je reviendrai encore brièvement là-dessus. En fait, si je vous démontrais ce théorème-là, j'ai que à démontrer la réciproque, puisque le sens direct, c'est celui qui est déjà connu depuis maintenant, vous commencez à bien connaître. Donc j'expliquerai brièvement pourquoi ça c'est vrai. En fait, c'est très facile, c'est juste un calcul. Et avant de vous quitter, donc de vous laisser aller rejoindre vos groupes de TD, je signale aux élèves qui n'étaient pas là hier, pour le TPA, la présentation du projet, que vous pouvez accéder à la vidéo du projet, normalement, si je n'ai pas fait d'erreur de manipulation, vous pouvez récupérer la vidéo du projet, la présentation du projet sur Teams, donc dans le, je sais pas, dans le fil général, je crois, ou sur Stream, j'imagine que vous devez pouvoir trouver les vidéos qui sont rattachées à mon cours. N'hésitez pas en tout cas à m'envoyer un mail si vous ne les trouvez pas ou si vous avez des questions sur le projet ou sur le cours plus généralement. Voilà, je vous remercie et donc à la semaine prochaine, j'espère, en présence avec vous tous dans l'amphi. Voilà, et bonne semaine à ceux que je ne vois pas en petite classe. Au revoir.